C'est vraiment une joie particulière pour moi de vous retrouver ce matin ici à Drummondville. Et peut-être que des gens m'ont déjà vu ici vous servir à Drummondville. Je suis déjà venu plusieurs fois, pas dans ce bâtiment, mais dans les deux autres bâtiments que vous avez pu avoir à Drummondville avec ma femme Julie. On est venu vous servir. Donc pour moi, c'est le troisième bâtiment que je vois pour Nouvelle Vie, Drummondville. Et c'est une joie vraiment pour moi d'être avec vous. Et laissez-moi vous dire à quel point vous êtes bénis, non seulement d'avoir ce beau local, mais aussi d'avoir un pasteur comme David Mondor qui vous aime, qui vous tient à cœur, qui prie pour vous. Combien sont reconnaissants pour ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je m'appelle Florian Rollin, je suis le pasteur de Nouvelle Vie à Châteauguay. Et je suis marié avec Julie Rollin depuis 5 ans. Et je pense que plusieurs personnes connaissent ma femme Julie parce qu'elle est souvent en contact avec les bénévoles sur les différents sites. Et ça fait bientôt un an que nous sommes les pasteurs responsables de Nouvelle Vie à Châteauguay. Yes! Et quand je vois ce qui prend place ici à Drummondville, mais aussi ce qui prend place à Châteauguay, laissez-moi vous dire que Dieu est en train de faire des miracles au Québec. On n'a encore rien vu, on voit juste la pointe de l'iceberg, mais Dieu a encore des choses extraordinaires pour le Québec. Et combien le croit ce matin qu'il n'y a pas encore fini avec le Québec, mon Dieu? Yes! Ce matin, on va continuer notre série de messages sur le rêve de Dieu. Et ce matin, on va plonger dans la vie de Joseph tous ensemble. Et notamment dans une période un peu sombre de la vie de Joseph. On va retrouver ce matin Joseph qui est en prison. Mais avant ça, pourquoi Joseph est-il en prison? Est-ce qu'il est en prison pour avoir volé quelqu'un? Pour avoir tué quelqu'un? Pour avoir augmenté de 20 sous le litre d'essence alors que tout le monde dort en pleine nuit? Non, Joseph est en prison parce qu'un jour, Dieu lui a donné un rêve. Et rapidement, si vous ne connaissez pas l'histoire de Joseph, je vais vous mettre une mise en contexte ici. Joseph est le fils préféré de son papounet Jacob. Et Joseph reçoit un jour un rêve de la part de Dieu, et même il en reçoit deux de la part de Dieu. Et Joseph a la brillante idée de le raconter à ses frères. Tous ses frères étaient jaloux de Joseph. Tous ses frères haïssaient Joseph, et Joseph n'a pas mieux dans sa tête que de se dire « Hey, j'ai une bonne idée ce matin, je vais aller voir mes frères alors qu'ils sont en train de travailler et leur dire « Un jour, vous allez vous agenouiller devant moi. C'est ça le rêve de Dieu pour vous et pour moi. » Et ses frères, à un moment donné, ils sont juste tannés de l'entendre. Ils sont juste épuisés de l'entendre et ils veulent se débarrasser de Joseph. Et ils se débarrassent de Joseph en le vendant à des Égyptiens en tant qu'esclaves. On pourrait se dire, oh, c'est horrible, mais à la base, ils voulaient le tuer. Donc on se dit, bon, c'est un peu moins pire finalement. Et donc voilà Joseph qui est vendu en esclavage en Égypte. Et il devient l'esclave d'un maître qu'on appelle Potiphar, d'un maître qui était connu à l'époque. Et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, Joseph devient l'esclave le plus important de la maison de Potiphar. Tout ce que fait Joseph se transforme en or. Et Potiphar commence à donner toute la gestion de sa maison à Joseph. Mais Joseph avait un problème, un grave problème. Et on retrouve son problème en Genèse 39, verset 6. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Moi, je rêve qu'un jour ma femme puisse dire ça de moi. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Moi, j'aimerais bien qu'elle dise ça de moi un jour. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Et un jour, Madame Potiphar commence à avoir un regard sur Joseph. Et elle lui ordonne, elle ne lui demande pas, elle lui ordonne, « Couche avec moi. » Et Joseph dit « Non. » Par respect pour Potiphar et par respect pour Dieu, Joseph dit « Non. » Et Madame Potiphar, frustrée, décide de propager la fake news que Joseph avait tenté d'abuser d'elle. Et Potiphar l'apprend et devient fou furieux et il envoie Joseph en prison. Moi, parenthèse, je suppose que Potiphar savait très bien que Joseph était innocent. À l'époque, on tuait les esclaves pour moins que ça. Et là, un esclave est accusé d'avoir voulu abuser d'une maîtresse. C'était sûr, c'était la mort assurée pour Joseph, mais Potiphar ne le tue pas. Moi, je suppose que Potiphar était en colère parce qu'il savait ce que sa femme avait voulu faire et qu'il avait dû se débarrasser. Il savait qu'il allait devoir se débarrasser de Joseph, de son trésor, de son ami Joseph, pour préserver l'honneur de sa femme et pour préserver son honneur. Mais ce n'est que mon avis. Et donc, Joseph finit en prison à cause du rêve de Dieu. Joseph finit en prison à cause de son intégrité. Et après avoir été haï par ses frères, vendu en esclavage, tombé dans un trou, en prison, injustement, on aurait juste le goût de dire à Dieu, « Hey Seigneur, donne-lui un break, s'il te plaît. Sois sympa avec Joseph. Il a été intègre, il a été bon. Puis là, il finit en prison. Donne-lui un break, Seigneur. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais le goût de dire la même chose à Dieu aujourd'hui. « Hey Seigneur, donne-nous un break, s'il te plaît. On sort de 2 ans de pandémie, on sort d'une crise mondiale, il y a les divisions, les problèmes raciaux, les chaises que j'ai commandées qui mettent 1 an à arriver. Puis là, il y a la guerre qui explose, le prix du gaz qui explose, l'épicerie qui explose, la 6e vague qui commence à arriver, même les chocolats Kinder sont contaminés. Seigneur, donne-nous un break !» Ça me rassure de vous entendre rire, j'avais peur d'être le tout seul à avoir cette boule à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça se trouve, je vais rentrer tout seul à me faire une thérapie à Châteauguay. Mais ok. Ce matin, je ne voulais pas seulement vous parler du rêve que Dieu a pour vos vies, mais du rêve que Dieu a pour notre Église, a pour l'Église de Drummondville, dans ces temps sombres, de la mise à jour que Dieu doit faire dans notre cœur, dans ces temps difficiles. Et le titre de mon message, « Le rêve de Dieu mis à jour ». Et pour ça, la vie de Joseph nous offre vraiment une compréhension de comment on doit se comporter. Et on va lire un long passage aujourd'hui, on va lire Genèse 39 à partir du verset 21. Il est écrit « Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. » Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Le temps passa et un jour, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi, et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, là même où Joseph était détenu. Pardon. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph. Et je reviens sur ma parenthèse ici quand je vous disais que Potiphar était sûrement au courant de l'innocence de Joseph. Tous les théologiens que j'ai pu lire sur ce texte-là s'accordent à dire que le chef de la garde ici, c'est Potiphar. En Genèse 39, même on lit que Potiphar était le chef de la garde. Donc on pourrait presque lire que Potiphar les confia aux soins de Joseph. Et ils furent maintenus quelque temps en prison. Une nuit, l'échanson et le boulanger du roi firent tous les deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?» « Chacun de nous a fait un rêve, répondirent-ils, et il n'y a personne pour nous en donner l'explication. Dites « Oh » avec moi. « Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Amen. » Aujourd'hui, nos prisons ne sont pas des lieux très agréables. On le sait, c'est des lieux vraiment durs pour les hommes qui sont enfermés. Mais néanmoins, on sait qu'ils ont de quoi vivre. On leur donne à manger, ils ont la télévision, ils peuvent faire des sorties. Même si la vie est extrêmement difficile, ça n'a rien à voir aux prisons d'Égypte à l'époque de Joseph. Selon les spécialistes, les prisonniers étaient durement traités et ils avaient le strict nécessaire pour survivre. Pas pour vivre, mais pour survivre. Et c'est dans ce lieu-là où on a jeté Joseph. Joseph était comme dans un camp de concentration. Mais Dieu était avec lui. La présence de Dieu fait radicalement une différence. Dans les pires moments de nos vies, même quand la situation ne semble pas évoluer, quand Dieu est avec nous, la façon dont nous allons vivre l'épreuve va changer radicalement parce qu'il va nous porter. Il va nous aider à passer au travers, il va nous encourager, il va nous bénir. Et combien ont déjà expérimenté la présence de Dieu dans les pires moments de vos vies? Dieu vous a porté, Dieu vous a béni, et c'est juste magnifique de voir des mains qui se lèvent parce que Dieu est fidèle. J'ai entendu même l'histoire un jour d'un missionnaire qui est parti en mission pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et il est allé dans un pays, et je ne m'en souviens plus lequel c'était le pays, mais on l'a pris et on l'a jeté en prison. Et c'était même pire qu'une prison parce qu'on l'a enfermé dans une sorte de boîte où est-ce qu'il pouvait à peine se tenir debout et à peine s'asseoir pour dormir. Et on l'a laissé là pendant plusieurs jours. Et après plusieurs jours, on en a sorti et sa première réaction a été « Remettez-moi dans cette boîte, mon Dieu était avec moi là-dedans. » Et c'est ça notre Dieu. C'est exactement ça, notre Dieu. Joseph expérimentait la même présence de Dieu en prison. Mais on peut se poser une question, pourquoi Dieu était avec Joseph? On vient de lire que Joseph a obtenu toute la gestion de la prison. Joseph dirigeait tout, il contrôlait tout, il était presque le chef de la prison. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, à cause des films, à cause des séries d'Hollywood, quand je pense qu'un prisonnier dirige toute une prison, moi, je pense au gars qui a un regard glacial, ultra tatoué, qui fait peur, qui gère tous les deals de drogue en prison, qu'on est obligé de payer pour avoir sa protection. Il gère la prison par la crainte. Mais Joseph est un autre prisonnier. Joseph ne gérait pas la prison par la peur ou par la crainte, mais Joseph gérait la prison par le service. Et ça va être mon premier point ce matin. Pourquoi Dieu était avec Joseph? Parce que Joseph était un exemple de service. On l'a lu tout à l'heure, mais je vais le relire dans une autre version parce qu'il manque un mot hébreu qui est pour moi très important. Genèse 40, verset 4, le chef de la garde les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. On va faire une pause ici. Tout à l'heure, je vous ai raconté le rêve qu'avait Joseph, le rêve qu'il a raconté à ses frères. Il leur a dit, vous allez vous agenouiller devant moi. Joseph pensait que le rêve de Dieu pour sa vie était un rêve de gloire. Mais en fait, le rêve que Dieu avait pour sa vie était un rêve de service. Joseph a servi Potiphar et maintenant Joseph sert en prison. Mais il ne sert pas n'importe quel prisonnier ici. On voit qu'on donne à Joseph la gestion de l'échanson du roi, donc de celui qui servait les boissons au pharaon et du boulanger. Autrement dit, Joseph vient servir des serviteurs. Joseph passe de fils préféré qui reçoit un rêve de Dieu à esclave d'un grand maître, à serviteur de prisonnier, à serviteur de serviteurs qui sont en prison. C'est difficile de tomber plus bas que de servir des serviteurs qui sont prisonniers. Mais Joseph sert avec la même passion que lorsqu'il servait Potiphar. Alors qu'il aurait pu être aigri envers Dieu, alors qu'il aurait pu rester enfermé sur soi, sur sa colère, sur sa frustration, sur l'injustice qu'il a vécue, se fermer totalement aux autres, Joseph reste fidèle et sert. Il est fidèle dans son service. Joseph a été dépouillé de son rêve de gloire pour servir. Joseph s'est mis à servir dans le lieu le plus terrible de l'époque. Et ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une société qui est exclusivement égocentrique, égoïste. Tout est centré à propos de moi, tout est centré à propos pour moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi vous poser une simple question. Quand vous êtes avec une gang d'amis, là, plusieurs, 5, 10, peu importe, faites un barbecue, faites du ski ou whatever. Quand vous prenez en selfie, en photo, qui est la première personne que vous regardez à l'écran? La première personne qu'on regarde, c'est nous. Ah, t'as pas de cellulaire. Bah, si tu te prends en photo, pas besoin d'un cellulaire aujourd'hui hein, pour prendre en photo. Et même si je vais encore plus loin, qu'est-ce qui fait que la photo est réussie selon nous? Si on se trouve bien dessus. Les autres peuvent être tout croche, la photo peut être floue, mais si nous, on est tout beau, tout... Oh, hey, nice, je la publie sur Facebook. Par contre, si on ne se trouve pas terrible dessus, non, reprends-en une autre. puis une troisième au cas où on ne sait jamais. Parce que notre image est la plus importante. Nous voulons être au centre de tout. Nous voulons avoir les projecteurs sur nous. On ne veut pas être utile, mais on veut être visible. On ne veut pas servir, mais on veut influencer. Et une étude est sortie dernièrement aux États-Unis et elle disait que 86% des jeunes, 86% des jeunes aux États-Unis rêvent d'être influenceurs sur Instagram. 86% des jeunes rêvent d'être une star, comme Joseph. Et Jésus nous a mis en garde contre ce genre de comportement. En Luc 20, c'est vrai que le texte que j'ai choisi, il parle surtout des spécialistes de la loi, mais ça s'applique tellement à notre contexte aussi aujourd'hui. Jésus dit « Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. » Méfiez-vous d'eux. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui se croient au-dessus de vous, qui font tout pour être vus, avec des belles et longues robes, des beaux vêtements, des beaux habits. Et au passage, Joseph aussi s'est promené avec des beaux habits. Avec ses frères, son père lui a offert un long manteau qui recouvrait, on croit qu'il recouvrait jusqu'au bord de ses bras et même toutes ses jambes. C'était des manteaux avec lesquels il était impossible de travailler à l'époque. D'habitude, les manteaux, ils s'arrêtaient ici, puis ça s'arrêtait là au niveau des jambes pour pouvoir travailler plus facilement. Mais Joseph se pavane avec son long manteau. Un manteau qui symbolisait l'orgueil, son rêve de gloire. Son rêve d'être élevé. Et on lui a arraché ses rêves, ses frères lui ont arraché son manteau, on lui a arraché le rêve de devenir influenceur, parce que le rêve de Dieu pour sa vie était qu'il soit serviteur. Dieu a dû faire une mise à jour dans le cœur de Joseph. Et cette mise à jour, Jésus nous donne un aperçu en Matthieu 20. Il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. » Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Jésus nous appelle à être des serviteurs dans ces temps difficiles. Ce n'est pas le moment de se replier sur soi comme aurait pu le faire Joseph. Ce n'est pas le moment de vouloir s'élever comme rêvait Joseph. Mais c'est un temps pour servir, comme l'a appris Joseph. Et comme Dieu le veut pour Nouvelle Vie de Romainville. Dieu a mis à jour son rêve dans le cœur de Joseph. Et voilà la mise à jour ultime. C'est que le rêve de Dieu, c'est jamais pour nous. Le rêve de Dieu, c'est pour les autres. Je ne sais pas si vous connaissez William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut. Peut-être que vous connaissez un petit peu l'histoire que je vais vous raconter. William Booth, alors pour ceux qui ont vu le film « Le Hobbit », alors non, il ne s'agit pas de l'acteur dans Le Hobbit, d'accord? Et là, il n'y a que les gens qui ont vu le film qui peuvent comprendre. Et William Booth a fondé l'Armée du Salut. Et il était connu pour ses courts discours punchés de 2 heures. Je vais vous faire grâce ce matin, je vais prêcher que 1h30. Je plaisante, je voyais des gens déjà prêts à partir. Il était connu pour ses longs messages, pour ses messages mais punchés et vivants. Et un jour, comme tout homme, il arrive vers la fin de son ministère. Et tout le monde se dit, on veut écouter son dernier message. On a 2 heures devant nous, on va écouter son dernier message. Et ses derniers 2 heures, son dernier 2 heures de prédication peut être résumé en un seul mot, others, les autres. Et c'est exactement ce que Joseph nous apprend en tant qu'Église. Ne fixons plus notre regard sur nous-mêmes, mais sur les autres. À l'exemple de Jésus-Christ, qui n'a pas cherché à être servi, qui n'a pas cherché à être le roi triomphant, mais qui a cherché à servir avant tout. Alors qu'on a arraché le manteau de gloire que rêvait Joseph, Jésus a enlevé par lui-même son manteau de rabbin, son manteau de maître, pour l'attacher à sa taille et laver les pieds de ses disciples. La tâche la plus basse de l'époque qu'un serviteur pouvait faire, c'est la pire tâche, et il a lavé les pieds des disciples. Voilà le cœur de notre roi. Voilà le cœur de notre Dieu. Voilà le cœur de ce Jésus, roi, serviteur, et nous sommes appelés à suivre son exemple. Dieu appelle ce matin un peuple à Drummondville. Il appelle comme il a appelé Ésaïe, mais qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et qui ce matin va répondre, me voici, sers-toi de moi ce matin. Et si tu sens dans ton cœur cet appel à servir, commence à servir dès aujourd'hui. Sers ton mariage, sers ta famille, sers tes collègues de travail, sers ton église, sers ton voisin qui est à ta gauche ou à ta droite. Commence à servir. Ne sers pas avec la force que tu as, ne sers pas parce qu'il faut le faire, mais sers en fixant Jésus. Sers avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Sers comme si tu servais Jésus. Sers comme si Jésus voulait se servir de toi pour aller toucher les autres. Sers pour la gloire de Dieu et pas pour ta gloire. C'est pour ça que Jésus t'a sauvé. C'est pour que tu puisses servir. Et quand tu commences à servir avec le même amour avec lequel Jésus a été animé, devine quoi ? Dieu va être avec toi comme il a été avec Joseph. Tu veux que Dieu soit avec toi dans ton mariage comme il a été en prison avec Joseph ? Commence par servir ton conjoint ou ta conjointe. Commence par l'aimer en action. Commence par mettre ton couple en priorité avant les taxes, avant l'hypothèque, avant le travail, avant les enfants. Commence à mettre ton couple en priorité. Oui, Dieu en premier, mais ton couple ensuite. Et c'est comme ça que Dieu sera avec toi et qui t'aidera à passer par les temps difficiles par lesquels tu es en train de passer. Tu veux que Dieu soit avec toi dans ton travail ? Commence par servir tes collègues. Et je sais, parfois c'est difficile, hein. Nos collègues sont difficilement aimables. Moi, en France, avant d'arriver au Québec, je travaillais en banque. Et quand Dieu a déposé le rêve d'aller prêcher la parole, de partir en mission, d'aller dans un autre pays pour prêcher, je vous assure qu'en banque, on est très loin du rêve de Dieu, hein, pour sa vie. Et malgré tout, je travaillais en banque et un jour, j'étais vraiment frustré de ne pas voir le rêve de Dieu avancer. Et c'est comme si Dieu m'avait mis à cœur, attends pas d'être à l'étranger pour commencer à être un exemple de service. Sers maintenant ton travail. Et j'ai commencé à servir dans les choses simples. Même parfois, les collègues ne s'en rendaient même pas compte. Des fois, je me garais plus loin sur le stationnement pour que mes collègues puissent être plus proches de l'entrée parce qu'il pleuvait. J'ai commencé à développer un cœur de vouloir servir, à faire attention aux autres. On a commencé à faire des cagnottes. J'ai commencé à organiser des cagnottes pour les anniversaires. Et je m'en souviens, un jour, on a offert un cadeau d'anniversaire à une dame qui travaillait dans cette boîte depuis au moins 20-25 ans. Et je pense qu'elle n'avait jamais eu un cadeau d'anniversaire de la part de ses collègues parce que j'ai vu dans son regard une joie, être touché, être ému parce que quelqu'un l'avait servi. Et si tu veux que Dieu soit avec ton église, commence à servir. Regarde les besoins qui sont autour de toi. Entends l'appel même qui a résonné pendant plusieurs semaines sur la vie d'église. On ne peut pas se passer de toi. Pasteur David ne peut pas se passer de toi. Pasteur David ne peut pas se passer des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Le rêve de Dieu pour notre Église est que nous servions notre Église, que nous servions notre entourage afin d'être des lueurs d'espoir, comme l'a été Joseph. Et c'est pour ça que Dieu était avec Joseph, c'est parce que Joseph était une lueur d'espoir. Par son service, Joseph a appris à faire attention aux autres, à faire attention à ceux qui sont autour de lui, à prendre soin des autres. Avant, vous pouvez le lire dans Genèse 37, on lit que ses frères ne cachaient même pas toute la colère qu'ils avaient contre Joseph. Ils lui parlaient mal, avec de la méchanceté, avec de la frustration, avec de la jalousie. Et Joseph ne le voyait même pas, il ne voyait que ses rêves. C'est pour ça qu'il leur raconte « Hey les gars, j'ai fait un rêve ». Il n'était pas conscient de leur souffrance. Mais aujourd'hui, dans la prison, le service l'a rendu attentif à la tristesse des deux prisonniers dont il devait prendre soin. Laisse-moi te dire, c'est en servant ta famille, C'est en servant ta famille que tu vas te rendre compte de la douleur de certains membres de ta famille. C'est en servant tes collègues que tu vas te rendre compte que certains passent par des temps, par des périodes difficiles. C'est en servant ton église que tu vas te rendre compte que la personne qui a l'air spirituelle le dimanche matin et qui lève les deux mains pour louer Dieu vit des temps compliqués dans la semaine. Tu vas commencer à le remarquer parce que ton focus ne sera plus sur toi, mais sur les autres. En servant, Joseph ne devient plus centré sur lui. Il n'a jamais été centré sur l'injustice qu'il a vécue. Et il aurait pu. Il aurait pu se centrer sur lui-même. Ça aurait été correct. On aurait dit, c'est correct d'être frustré. Mais Joseph ne reste pas centré sur l'injustice qu'il a vécue. Mais il est centré sur les autres. Et regardez comment il réagit quand les deux serviteurs du pharaon lui disent, on a fait un rêve et personne ne peut nous l'interpréter. Il aurait très bien pu se dire, nope, thank you, merci. Mais là, les rêves, voilà où j'en suis à cause des rêves, moi. Donc, me parlez pas de rêves, s'il vous plaît. Il aurait pu leur dire, je sais pas si vous connaissez William Booth, il parle pendant 2 heures, moi je vais vous parler de ma vie pendant 4 heures. Et vous allez comprendre pourquoi il faut être triste, parce que ma vie est horrible. Mais Joseph ne réagit pas comme ça. Il ne réagit pas comme moi j'aurais réagi. Joseph leur dit, Dieu peut vous donner la révélation. Racontez-moi votre rêve. Joseph a été un serviteur d'espoir en prison. Joseph a été un canal d'espoir entre Dieu et ses hommes. Et aujourd'hui, dans notre société, on vit une époque extrêmement difficile. Et on a le choix. Soit de se fermer et dire, non, nous aussi, on a assez souffert. Laisse-nous tranquille, on a été fermés. Laisse-nous tranquille, moi, je veux juste venir le dimanche matin, prendre mon truc et puis partir. J'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu mes rêves. Laisse-moi tranquille, je veux rien entendre de tout ça. Ou alors on peut s'ouvrir et répondre à l'appel de Jésus qui nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est exactement ce que nous sommes ce matin. C'est exactement ce que vous êtes, Nouvelle Vie Drummondville. Vous êtes le sel de Drummondville. Vous êtes la lumière de Drummondville. Nous ne voulons pas que Nouvelle Vie Drummondville soit cachée. Nous voulons que cette église soit visible. Et dans un monde qui s'entre-déchire, on a besoin. Le monde a besoin que nous soyons cette lumière d'espoir. D'être cette lumière de paix, d'être cet exemple de service, de générosité, d'amour. On a besoin d'être animé de la même compassion de Jésus. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans nos vies, pas pour recevoir des rêves qui nous élèvent, nous, mais pour aider les autres, pour prendre soin des autres, pour aimer les autres dans cette société qui est totalement déchirée et meurtrie. Il y a plusieurs articles que j'ai pu lire qui expliquent qu'on est actuellement dans une société vraiment catastrophique d'un point de vue psychologique. Les experts scientifiques s'accordent à dire que nous ne sommes plus capables de faire face aux mauvaises nouvelles. Pendant 2 ans, nos défenses émotionnelles ont été tiraillées, ont été fracassées par les mauvaises nouvelles, par la pandémie, par tout ce que vous savez. Et aujourd'hui, nos défenses émotionnelles ne sont plus assez en place pour faire face à la guerre, pour faire face à la 6e vague, pour faire face à la crise économique. C'est ce que les experts disent. Psychologiquement, on n'est plus capable. Et on le voit. On le voit, il y a des appels d'adolescents qui explosent en ce moment. Il y a de plus en plus d'adolescents qui appellent parce qu'ils sont angoissés à cause de la guerre, parce qu'ils ne sont plus capables d'y faire face. Il y a des gens qui sont de plus en plus angoissés à l'idée de faire de l'épicerie, à l'idée de mettre du gaz dans leur char parce qu'ils ne sont plus capables de faire face aux mauvaises nouvelles. Nous sommes dans une boule à angoisse. La société est une boule à angoisse en ce moment. Et des gens se demandent, où est Dieu dans nos épreuves? Mais Dieu lui demande, où est mon église dans cette épreuve? Nous avons le plus beau message que le monde puisse recevoir. Nous avons la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons le message de Jésus. Nous n'existons pas pour nous, mais nous existons pour les autres, pour servir les autres, pour apporter ce message de paix, ce message de renouvellement, ce message que Dieu ne te laissera pas tomber si tu donnes ta vie à lui. On est appelé à être la lumière du monde, pas à bronzer devant la lumière. Nous sommes appelés à donner et pas uniquement à recevoir. Est-ce que ce sera facile ? Non. Non, ça a été difficile pour Joseph. Joseph a vécu des moments difficiles. Mais malgré les souffrances, il est resté fidèle dans son service et Dieu l'a porté et Dieu était avec lui. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre. Joseph, quand on lit la Bible, quand on voit un petit peu tout son parcours, Joseph était reconnu pour son service. Et toi, pourquoi es-tu reconnu ce matin ? Si je demandais à ta femme, si je posais cette question à ton mari, si je posais cette question à tes enfants, à tes collègues, à tes voisins, pourquoi elle est reconnue, elle ? C'est quoi le témoignage ? C'est quoi son témoignage à lui ? Est-ce que certains vont me répondre « Ah, lui, non, il est amer. Elle, elle est égoïste, pense qu'à elle. Toujours en train de critiquer les autres, toujours négatif. Tout est centré sur lui ou sur elle, puis il est fainéant, il ne fait pas grand-chose. C'est tout à propos de lui et pas à propos des autres. » Est-ce que je vais entendre ça comme réponse ? Ou est-ce que je vais entendre « Lui, elle, est reconnue pour son service. » Jésus est le plus bel exemple de leader-serviteur que vous pouvez trouver dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus, à l'époque, était reconnu pour ses miracles, pour ses talents de prédicateur. Mais au lieu d'être un influenceur de plus, Jésus a fait le choix d'être un leader-serviteur. Jésus nous a montré un exemple à suivre et que plusieurs suivent déjà ce matin. Regardez toutes les personnes qui vous ont servi depuis que vous êtes arrivé ce matin. Toutes ces personnes ont un cœur de serviteur. Et toutes ces personnes aussi ont leurs propres difficultés dans la semaine, croyez-moi. Il y en a qui vivent des épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ils mettent tout ça de côté. Ils mettent tout ça de côté, ils décident de servir. Ils décident d'aimer, parce que le rêve que Dieu leur a donné, ce n'est pas un rêve pour eux, mais c'est un rêve pour les autres. Le rêve que Dieu leur a donné, c'est d'être l'Église, de servir l'Église. Dieu était avec Joseph parce que Joseph servait et que Joseph s'est mis de côté et s'est laissé utiliser. Et toi ? Quelle va être ta décision ce matin ? Je ne vais pas faire un appel à lever la main pour toutes les personnes qui veulent servir, qui veulent une mise à jour dans leur cœur, parce que je pense qu'on doit tous avoir déjà une mise à jour dans notre cœur pour vraiment réaliser que ce n'est pas à propos de nous, mais à propos des autres. Et je pense que lever la main, ça peut être facile, mais remplir un formulaire « Rejoins l'équipe », ça demande un engagement. Ça demande un cœur qui veut servir. Ça demande un cœur qui dit « Je ne suis pas là pour moi ». Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres. Quelle est ta décision ce matin ? Je vous invite à vous lever et on va passer à la prière bientôt là. Et avant de passer à la prière, j'ai évoqué qu'on est dans une situation de crise tout à l'heure. Et notre Église a besoin de la faveur de Dieu pour avancer, pour rayonner, pour grandir. Mais peut-être que c'est toi aussi qui as besoin de sa faveur ce matin. Peut-être que plusieurs dans cette salle sont comme les chansons du roi et le boulanger. Vous êtes juste tristes, sans solution. Personne pour répondre à la souffrance de votre cœur. Vous vous sentez juste seul et abandonné. Sans solution face au problème. Sans solution alors que votre couple bat de l'aile. Sans solution dans vos finances, dans vos dettes. Vous êtes juste angoissé. Il y a une boule d'angoisse qui résonne en vous. Peut-être que plusieurs se sentent juste seuls ce matin. épuisés émotionnellement. Joseph a répondu à ces hommes, « Dieu peut vous donner la révélation de ses rêves. » Et si tu vis une telle situation de solitude, d'abandon, de tristesse, laisse-moi te dire ce matin que Dieu peut te donner la paix. Dieu peut te donner la joie. Dieu peut te donner une nouvelle assurance. Dieu peut te donner un nouvel espoir. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu crois avoir besoin. Dieu peut te donner une assurance quand tu regardes tes finances. Dieu peut te redonner le sommeil que tu as perdu à cause des angoisses, à cause de tes enfants, à cause de tes dettes. Dieu peut te donner cette nouvelle vie ce matin. Viens à lui. Viens à lui. Les chansons et le boulanger n'auraient jamais pu obtenir la révélation de leurs rêves s'ils n'avaient pas raconté leurs rêves à Joseph, s'ils ne s'étaient pas ouverts à Joseph. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Ouvre ton cœur à Dieu, dis-lui toutes tes souffrances, dis-lui toutes tes craintes, dis-lui toutes tes solitudes, dis-lui Seigneur, viens m'aider parce que là, c'est impossible. C'est juste impossible pour moi. La paix ne s'obtient pas dans l'absence de problèmes, mais elle s'obtient dans la présence de Dieu. Et si tu as besoin d'une faveur particulière ce matin, de Dieu, si tu as besoin de cette faveur de Dieu ce matin, je t'invite à lever la main. On va prier pour toi. On va prier avec toi.